Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé.
Bon mercredi, bon midi et bienvenue à C'est bon pour la santé, édition du 15 février 2007. Là, j'imagine que plusieurs d'entre vous à la maison vous attendiez à entendre la douce voix de Marianne. Eh bien non, Martin Forgue est avec vous au micro ce midi. Si tout va bien, Marianne se prélasse actuellement sur une plage quelque part en Floride, nous laissant derrière ce magnifique tapis de neige qui s'est abattu sur nous, un peu à Montréal également pour le reste, dans le reste de la province. Et bon, c'est un tapis qui peut quand même, un tapis de neige qui peut être qui peut être inspirant pour certains, qui peut être rempli d'inconvénients pour d'autres. Mais néanmoins, ça ne nous empêchera pas tout ça d'avoir un très bon programme pour vous ce midi. À 12h42, on reçoit le docteur Yves Joannette, professeur-chercheur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui viendra nous parler de communication et de vieillissement. 12h31, Gaëlle Ouellette, généticienne, présidente-directrice générale du Regroupement québécois pour les maladies orphelines, qui vient nous parler d'un premier salon sur le sujet, donc elle nous donnera tous les détails. Également, nous entretiendrons avec Nancy Doyon vers 12h19. On revient un peu sur l'attentat de Québec, on se demande comment aborder la question des criminels avec ses enfants. Elle nous parlera tout ça, Nancy Doyon, qui est éducatrice spécialisée, coach familial, également fondatrice de SOS Nancy. Dans quelques minutes, on s'entretient également avec Marie Lalande vers 12h10, qui nous parlera de stratégie de lecture. Et on ne dira jamais à quel point la lecture est très importante. Et ce, dès un très jeune âge, elle nous parle, elle nous donne des trucs et astuces sur le sujet. Mais auparavant, on ne saurait se passer de la revue de presse « L'actualité santé de la semaine ». Encore une fois, l'actualité nous a bombardé d'informations cette semaine dans le domaine de la santé. C'est un sujet qui est, on le sait, incontournable. On commence avec un petit suivi de dossier. Vous savez, depuis plusieurs semaines déjà, moi-même à la revue de presse, je vous talonne au sujet des transferts en santé. Eh bien, il y a du nouveau encore une fois. Donc, une coalition syndicale qui veut faire monter la pression pour que se règle enfin la question des transferts fédéraux en santé. On sait que c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs mois. C'est un dossier qui est rempli de rebondissements. Donc, cette fois, c'est la coalition syndicale pour la sauvegarde et l'amélioration du système public qui sollicite notamment l'appui du nouveau Parti démocratique dans le dossier des transferts fédéraux en santé. Le syndicat canadien de la fonction publique en fait partie de cette coalition, réclame une augmentation annuelle du financement fédéral d'au moins 6 % et je vous rappelle que l'offre actuelle d'Ottawa, eh bien, elle est de 3,5 %, donc on parle quand même d'une très, très bonne différence. Donc, le directeur québécois pour le SCFP, Marc Rangé, qui sollicite Alexandre Boulris et Guy Caron, donc deux députés néo-démocrates, pour essayer de faire monter un peu la pression. Alexandre Boulris, qui lui-même est issu du monde syndical, rappelons-le. Et on essaie de garder un œil quand même assez averti du côté de Québec, puisqu'on accuse le ministre provincial de la Santé, Gaétan Barrette, d'accroître la privatisation du réseau. Néanmoins, M. Barrette, bon, évidemment, ministre de la Santé du Québec, une des provinces qui ne veut pas signer l'entente proposée par Ottawa. On se rappelle que le Québec se joint à l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique également pour continuer le front commun. Quand même, ça représente 90 % de la population. Et on dénonce l'entente fédérale comme étant une entente à rabais et on regrette du côté du syndicat de la fonction publique l'adhésion des provinces de l'Atlantique, notamment à ce pacte qui est censé résoudre le problème des transferts en santé, mais manifestement, ce n'est pas un dossier qui est réglé. Et évidemment, nous ici, on vous en fera part dès qu'il y aura des nouveaux développements. Du côté des hôpitaux de Québec, le temps d'attente s'allonge dans 40 % des urgences de la province, des chiffres qui nous viennent du Journal de Québec. Donc, on estime que les temps d'attente dans les urgences seraient les pires en Occident, selon un rapport déposé par le commissaire à la santé et au bien-être, Robert Sallois. Un temps d'attente moyen de plus de 15 heures dans les urgences en général. Je vous donne quelques chiffres. En Gaspésie, par exemple, on parle de 10,47 heures d'attente en moyenne. Côte-Nord, 12,18 heures. à Laval, 17,25 heures d'attente. Donc, évidemment, plus on se rapproche des centres urbains, plus les temps augmentent. On a deux régions, par contre, Lanaudière et les Laurentides, qui, de leur côté, ont vu une légère baisse du temps d'attente dans les urgences. Donc, on parle de 148 minutes et 88 minutes, respectivement, pour Laurentides et Lanaudière. Mais malgré tout cela, il faut tout de même attendre plus de 18 heures sur une civière, toujours dans ces deux régions. On note que l'hôpital d'Amqui a le meilleur rendement de la province avec 4,59 heures d'attente. Et le pire, l'hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire avec une attente de 24,39 heures. On sait, bon, le dossier d'attente dans les urgences, un autre dossier extrêmement pressant au Québec. L'opposition met beaucoup de pression. François Paradis de la Coalition Avenir Québec notamment qui décrit la situation. Et pourtant, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui promet depuis des mois que la situation allait s'améliorer avec une plus grande prise en charge notamment des patients par les médecins de famille. Et tout ça, évidemment, ne s'est toujours pas concrétisé. Très bonne nouvelle du côté de la rive sud de Montréal, des initiatives citoyennes qui réussissent à attirer les médecins en région. Évidemment, ça, c'est un autre dossier qui est extrêmement épineux, qui n'est pas facile à régler puisqu'il est très difficile d'attirer les médecins, donc les spécialistes de la santé, à l'extérieur des centres urbains. Mais du côté de la municipalité de Saint-Blaise, petite municipalité rurale de 2000 habitants, c'est située à 70 km au sud de Montréal, on a créé une coopérative de santé qui a réussi à attirer jusqu'à maintenant 3 médecins et une infirmière clinicienne, et déjà plus de 1000 personnes ont acheté leur carte de membre selon l'article publié sur le site de Radio-Canada. Évidemment, les coopératives de santé, c'est un modèle, bon, c'est pas très répandu hein, dans la province, mais du côté des autorités municipales, on voit ça comme un projet qui est non seulement rassembleur, mais également peut-être une opportunité d'investissement, une opportunité de développement économique dans la région, puisque c'est le point de vue du maire Jacques Desmarais, si on répète l'expérience dans différentes régions au Québec, eh bien, on pourrait repartir l'économie, les économies locales, puisqu'on pourrait attirer non seulement des jeunes familles, mais également des aînés qui cesseraient de quitter les villes, les villages pour se diriger vers les centres urbains où les soins de santé sont évidemment beaucoup plus développés. Donc, dossier à suivre, encore une fois, les coopératives de santé, assez intéressant quand même comme système évidemment très communautaire, très citoyen, qui justement pourrait peut-être être rassembleur. Maintenant, à Shawinigan, on s'inquiète de la centralisation des soins de santé. Donc, tout ça nous vient, encore une fois, de Radio-Canada. On parle d'une séance du Conseil de ville au cours de laquelle un citoyen, Yvon Vincent, a interpellé les élus pour faire part de ses préoccupations. Il parlait notamment des cas des centres hospitaliers à Nicolet et à Louiseville qui, respectivement, ont perdu leur service d'orthopédie, d'otorhino-laryngologie également. Et du côté de Louiseville, eh bien, on parle de compressions qui ont touché les effectifs des salles d'urgence. Donc, on met tout ça sur le dos de la centralisation des services. On redirige ces spécialisations-là vers l'hôpital de Trois-Rivières. Et ça inquiète non seulement M. Vincent, mais également le maire de la ville, Michel Anger, qui s'est promis d'interpeller le gouvernement provincial et, évidemment, plus précisément, le ministre Gaétan Barrette. Maintenant, du côté de Québec, plus de 200 ambulanciers paramédicaux ont emboîté le pas de plusieurs confrères de la belle province, ont déclenché une grève de 72 heures un peu plus tôt cette semaine. Donc, tout ça, c'est terminé, évidemment, mais tout de même, il faut suivre le dossier puisqu'on a promis d'autres moyens de pression. Il faut rappeler que les paramédicaux ne sont sans contrat de travail depuis presque 2 ans. Là, il n'y a aucune négociation actuellement. Le ministère de la Santé s'est retiré de la table, a laissé aux employeurs et aux coopératives le soin de négocier les clauses salariales. On dit du côté du syndicat que les employeurs n'ont pas le pouvoir, n'ont ni le pouvoir ni l'argent pour négocier tout ça. C'est le ministère de la Santé qui devrait prendre le dossier en main et donc, tant que ça ne se produira pas, eh bien, les ambulanciers continueront leur grève qui est légale et qui est balisée par le Conseil des services essentiels. Donc, encore une fois, un autre dossier à suivre. Marie Lalande, bonjour.
Bonjour, Martin.
La lecture. Moi-même, je suis un grand lecteur depuis un très jeune âge et on ne dira jamais assez à quel point c'est très important.
Essentiel.
C'est essentiel. Et ce, dès un très jeune âge. Et d'ailleurs, bon, vous allez nous proposer au cours de cette chronique des stratégies de lecture. Mais d'abord, justement, on commence quand?
On commence le plus tôt possible. Dès que les enfants ont l'âge de tenir quelque chose ou qu'on peut leur présenter quelque chose à lire, qu'on peut leur lire quelque chose, on commence le plus tôt possible. En fait, dès que les enfants arrivent à la maternelle, quand ça devient un peu plus formel, ensuite en première année, les enfants apprennent notamment ce qu'on appelle la conscience phonologique. Mm-hmm. C'est la capacité de reconnaître, de manipuler les sons. Ça permet aux enfants de percevoir, de découper, de manipuler les unités sonores du langage comme la syllabe, la rime, le phonème. À l'intérieur de ça aussi, conscience phonémique. Mm-hmm. C'est la compréhension que les mots sont constitués de sons. Dans la langue française, il y a 36 phonèmes, 26 lettres, mm-hmm. 36 phonèmes qui peuvent être utilisés pour former de nouveaux mots. Puis il y a aussi la conscience graphophonétique. En fait, c'est comprendre tout simplement que les symboles du langage mm-hmm. écrit, les lettres, elles ont un nom, elles ont un son et elles ont aussi plusieurs façons de les écrire, que ce soit en lettres minuscules, en lettres majuscules mm-hmm. ou dans les différents caractères mm-hmm. qu'on peut utiliser. On s'organise aussi pour que les enfants comprennent le principe et le code alphabétique. Ça veut dire ça qu'en français, on lit de gauche à droite, de haut en bas. Les frontières entre les mots dans le monde de l'écrit. Parce que quand je parle, et la même chose pour vous, les mots qu'on utilise ne sont pas séparés. Mais à l'écrit, oui, ils ont une distance, une limite entre chaque mot. La ponctuation aussi, qui permet de faire des pauses. Mm-hmm. L'organisation dans un système aussi. Cette correspondance-là entre les graphèmes et les phonèmes, ça constitue un des principes de la langue écrite. Mm-hmm. Puis aussi, on veut que les enfants comprennent que les mots font partie d'un texte. Un texte, le message, c'est fixe. Ça reste là, ça bouge pas. Et c'est utilisé pour communiquer. Mm-hmm. Ça veut dire quelque chose.
Vous me racontez ça, Marie, là, c'est vraiment fascinant parce que là, vous nous expliquez tous les mécanismes, toute la science derrière l'apprentissage de la langue, évidemment, qui nous conduit à apprendre à lire. Mais bon, quelles sont les principales stratégies qui sont enseignées à l'école, justement, aux petits qui sont en phase d'apprentissage, devrait-on dire même d'initiation à la lecture?
Tout à fait, parce qu'on commence là. En fait, quand les petits arrivent, on leur enseigne principalement deux grandes stratégies. La première, c'est de reconnaître automatiquement ou globalement les mots comme des images dans le cerveau, la reconnaissance visuelle des mots. Certains mots qu'on emmagasine en mémoire qui permet aussi souvent aux enfants de deviner. C'est une stratégie que les enfants utilisent facilement. Mm-hmm. C'est aussi un risque avec cette stratégie parce que tous les mots qui commencent par M ne sont pas le mot maman, par exemple. Donc, il faut être prudent.
Qui est souvent le premier mot, d'ailleurs, que les enfants apprennent.
Oui, tout à fait. L'autre stratégie importante, c'est la maîtrise du décodage, la compréhension, donc, de la correspondance graphème-phonème. Je vous donne un exemple. Le son AN, le son AN, on le retrouve dans le mot maman, parce que ici, les deux lettres sont regroupées ensemble pour former ce son-là. Mais dans le mot banane, on retrouve aussi les lettres A et N collées ensemble, mais on ne les regroupe pas de la même manière. Donc, c'est important de comprendre que le bon regroupement change tout et de reconnaître tous ces sons-là. Ensuite, on va apprendre aux enfants à utiliser correctement leur mémoire pour extraire rapidement des mots qu'ils ont mis dans leur mémoire et les reconnaître rapidement, les lire de façon fluide. Ensuite, associer les mots qu'ils lisent à leur signification. Donc, il y a un lien avec le vocabulaire, les connaissances du lexique, du sens. Et on va leur demander de garder en mémoire les mots qu'ils ont lus. Parce qu'on les décode, les mots, mais il faut se rappeler de ce qui était au début de la phrase pour que ça ait du sens. On va leur demander de reconnaître tout ce qui est en grammaire, par exemple, certaines règles, et de mettre ensemble, les mettre en relation les mots qu'ils lisent, le sens des mots, la grammaire, pour comprendre, pas seulement décoder. C'est important, ça. Il y a des enfants qui lisent, mais qui ne font que décoder, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent.
et aussi qui ne mémorisent pas toujours nécessairement, j'imagine, les différents mots qu'ils apprennent. Madame Marie, vous me parlez de tout ça. C'est d'une logique limpide, c'est très pédagogique, mais pour les auditeurs, les auditrices à la maison,
qu'est-ce qu'on peut faire,
pour aider, pour soutenir le système?
En fait, il y a deux grandes activités qu'on fait à la maison, les activités formelles, les activités informelles. Formel, donc, c'est on apprend les lettres, les sons. C'est ce qu'on fait beaucoup à l'école. On peut faire ça à la maison aussi. Mais ce qu'on fait en général à la maison qui aide et c'est prouvé, ce sont les activités informelles, donc tout ce qu'on peut faire autour de la lecture, lire aux enfants, lire avec les enfants. Puis ça, on le sait, c'est payant. Et aussi, on prend en compte que quand on est à la maison, on a le souper à faire, le bain des enfants, tout ça, le stress lié au travail. Ça fait... En fait, on essaie de faire de ces activités de lecture des moments significatifs d'échange, de communication, des petits plaisirs cocons, moi j'appelle ça comme ça, plutôt que d'insister sur l'importance de l'enseignement des sons, des lettres, on va faire ça à l'école. Quand on lit des livres aux enfants, quand on lit avec lui, on lui montre comment on fait comme lecteur. On lui donne un modèle pour comprendre ce qui est lu. Puis, il faut savoir que l'enfant est actif dans la gestion de sa compréhension, même quand on lui lit des histoires. On a identifié des stratégies que les parents utilisent quand ils lisent à haute voix. Ces stratégies-là sont vraiment importantes parce qu'à long terme, c'est ce que l'élève, l'enfant va faire lui-même, tout seul. Par exemple, visualiser, former des images, créer des images dans sa tête pour voir ce qu'on lit, se poser des questions ou poser des questions, s'interroger sur ce qui s'en vient, faire des hypothèses sur ce qui s'en vient. Résumer, dire dans ses mots, c'était quoi le début de l'histoire? Comment ça finit? Qu'est-ce qui est arrivé au milieu? C'est qui les personnages? Lier le texte à sa vie. Par exemple, faire des liens, aller chercher dans ce qu'on connaît déjà, faire des liens avec sa propre histoire, faire des liens avec deux textes ou avec un film ou avec l'actualité. Inférer, lire entre les lignes. Des fois, l'information n'est pas écrite directement dans le texte, mais on peut aller voir un peu plus loin, puis aller lire entre les lignes. S'apercevoir qu'on ne comprend pas et faire quelque chose pour essayer de comprendre. Ralentir la vitesse de lecture, aller un petit peu plus vite. Donc, s'ajuster, répéter, clarifier. Comprendre le sens des mots qu'on ne comprend pas aussi. Donc, le parent a un rôle très important quand il lit une histoire aux enfants pour faire ça. Comment il fait pour comprendre lui-même, puis porter un jugement, c'est-à-dire donner son opinion sur le personnage préféré, la partie préférée de l'histoire. En fait, donc, lire un livre avec son enfant, c'est bien, mais lire un livre avec son enfant et en discuter avec lui, c'est encore mieux, parce que ça développe sa compréhension, puis sans le savoir, on l'outille pour utiliser ces stratégies-là qu'il utilisera lui-même quand il sera tout seul.
Donc, ce que vous nous dites aussi, Marie, en conclusion, c'est que, bon, évidemment, l'accompagnement parental est crucial dans l'apprentissage de la lecture, dans le fait de se doter de stratégies efficaces. Dans le plaisir, tout à fait. Marie Lalande, notre chroniqueuse, je vous remercie beaucoup.
Plaisir.
Et on se doit de revenir sur cet attentat terroriste qui a secoué la région de Québec le 29 janvier dernier. Je dis la ville de Québec, mais évidemment, c'est toute la province qui a été complètement secouée par cette immense tragédie, cette fusillade dans une mosquée de la vieille capitale. C'est pas toujours facile d'aborder la question, évidemment, avec les enfants, mais c'est néanmoins essentiel. Il y a eu tout récemment, donc en 2016, le livre « Le terrorisme expliqué aux enfants » qui a été écrit par l'écrivain marocain Tahar Ben Jeloun, qui avait également écrit un livre intitulé « Le racisme expliqué à ma fille » en 1997. Coïncidence, le magazine Les Débrouillards venait tout juste de publier également un dossier sur le terrorisme de façon un peu plus pédagogique d'aborder la question. Nous, on le fait aujourd'hui avec Nancy Doyon, coach familiale, éducatrice spécialisée et fondatrice de SOS Nancy. Madame Doyon, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez publié un texte dans la foulée de ce, dans la foulée de cette tragédie, de ce crime haineux, disons-le, où vous mettiez notamment l'accent sur l'importance de protéger nos jeunes.
Oui, surtout chez les plus jeunes, mais même bon, aussi longtemps qu'on est capable de le faire, il est énormément question terrorisme. Bon, ici, c'est arrivé, c'est sûr, pratiquement dans notre cour au Québec, mais en même temps, on s'entend, là, il y en a un petit peu partout dans le monde, et ça crée une espèce de climat anxiogène pour nos enfants qui sont trop fréquemment exposés aux nouvelles où il est question de gens qui sont tués, de bombes qui sautent, etc. Donc, et chez les jeunes, c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas la capacité au niveau cognitif de prendre du recul, le recul nécessaire pour être capable d'analyser la situation dans son ensemble et d'être capable de voir quel risque exactement j'ai que ça m'arrive à moi. Nous, on est des adultes construits et malgré tout, ça crée de l'inquiétude chez nous quand on voyage ou bien même quand on rencontre des étrangers. Alors, on imagine comment ça peut être anxiogène pour nos jeunes.
Bien justement, vous faisiez mention du fait, bon, vous le rappelez, on l'a rappelé en préambule également, c'est un attentat qui est arrivé dans notre cour. On parle souvent du phénomène du mort kilométrique dans les médias, c'est-à-dire plus une tragédie est éloignée de nous géographiquement, moins elle a tendance à nous affecter. Diriez-vous que c'est vrai pour ce qui est de l'impact sur les jeunes?
Ben pour les jeunes, c'est moins vrai parce qu'ils n'arrivent pas à justement bien évaluer la distance. Pour eux, ce qui se passe à la télé, ce qu'ils voient sur Internet, ils ont l'impression que c'est pratiquement chez eux que ça arrive. Et puis, ben jusqu'à maintenant, on était capable de dire à nos jeunes, ben tu sais, ça arrive dans d'autres pays que le nôtre. Ben non, ça, c'est arrivé ici. Donc, pour eux, ça devient, ils ont du mal à évaluer, est-ce que ça peut arriver chez moi? Est-ce que ça peut arriver dans mon école? Est-ce que ça peut arriver chez mon voisin? Est-ce que les gens que je rencontre, est-ce qu'ils sont dangereux pour moi? Tu sais, un enfant, c'est difficile pour lui là de faire la part des choses entre les musulmans extrémistes, les musulmans en général, les étrangers en général. Donc, ça devient difficile pour eux. On voit même des adultes pour qui c'est difficile, donc les enfants encore davantage.
Et ça, c'est vrai dans un Québec, justement, de plus en plus pluriel, de plus en plus divers au niveau de la représentation culturelle. On disait protéger les jeunes, les protéger des images, mais j'imagine que c'est quand même important de ne pas les isoler complètement de la réalité.
Ben en fait, de toute façon, on y arrivera pas, surtout quand il arrive des situations comme il est arrivé il y a quelques semaines. Donc, c'est sûr que nos jeunes, dès qu'ils fréquentent le milieu scolaire, ils ont été mis au courant de la situation. Par contre, les protéger, ça pourra vouloir dire fermer la télé, ne pas faire rouler les nouvelles en continu, ne pas constamment parler de la situation en leur présence, donc les tenir un petit peu à l'écart de ça. Chez les enfants qui ne fréquentent pas l'école, souvent les tout petits, 0-5 ans, ils sont pas supposés avoir été mis au courant de ça. Un peu plus vieux, il y a des parents qui ont choisi d'en parler un petit peu, d'aborder le sujet avec leurs enfants, ce qui peut être fort adéquat, surtout si les enfants en ont entendu parler à l'école. Dans certains cas, ils ont même choisi de les impliquer, par exemple, quand il y a eu des vigiles où ils ont, avec les plus grands, il y a certains parents qui ont choisi d'en discuter ouvertement. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas les entretenir là-dedans. Il ne faut pas que ça devienne un sujet de conversation constant et il ne faut pas non plus que sans arrêt, on soit en train de regarder tout ce qui se passe à travers la planète et que pour l'enfant, ça devienne omniprésent dans sa vie. Les enfants, leur travail, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de pas trop s'inquiéter. Quand il y a une inquiétude qui monte, on en discute, mais davantage d'un point de vue d'accueil, d'empathie, j'écoute qu'est-ce qui l'inquiète, mais ils sont peut-être pas obligés de connaître tous les détails, tous les tenants et aboutissants là, de la situation mondiale à ce niveau-là.
Donc, vous parliez de l'importance pour les parents d'essayer de contrôler un peu l'accès aux images. Vous avez mentionné l'exemple notamment de couper les chaînes d'accès continu. Mais on le sait, Madame Doyon, les jeunes sont nés avec des appareils dans les mains, souvent sont meilleurs que leurs parents pour réussir à débusquer du contenu, de l'information, surtout sur Internet. Comment on peut efficacement mener à bien là, toutes ces stratégies-là?
Mais moi, je vais avoir un discours un peu responsabilisant envers les parents. Si j'ai un jeune de 15 ans et plus, 14-15 ans et plus, normalement, ce qu'il voit ou ce qu'il consomme sur Internet, il devrait être rendu la plupart du temps assez vieux et assez mature pour être capable de faire la part des choses, surtout si on en a discuté à la maison. Par contre, quand comme parent, je choisis de laisser mon enfant de 9, 10, 11 ans avoir accès à Facebook, par exemple, ou aux réseaux sociaux, si je lui permets d'avoir un compte et je lui permets d'aller là, ben normalement, je suis censée faire mon boulot de parent puis jeter un œil sur ce qu'il voit et ce qu'il consomme comme information. Parce qu'on sait qu'avec les algorithmes qu'il y a sur les réseaux sociaux, entre autres, si j'ai un jeune qui va voir, qui clique sur des propos anti-musulmans ou des propos qui promouvoient le racisme, ben éventuellement, il va en voir d'autres, il va en voir d'autres, il va en voir d'autres. Si il va cliquer sur un texte qui parle qui donne l'information déformée un petit peu là, ou qui est alarmant concernant la possibilité de terrorisme, ben les réseaux sociaux vont y en envoyer encore de plus en plus. Donc, c'est notre travail de parents d'accompagner nos jeunes si on accepte qu'ils consomment des réseaux sociaux et qu'ils consomment l'information sur Internet.
Parce qu'évidemment, la censure complète, c'est pas une... dès qu'il y a un interdit, de toute façon, ça encourage les jeunes à y aller encore plus.
Tout à fait. Puis, justement, s'ils le font dans notre dos, ben ils risquent d'avoir... de se former leur propre opinion. Donc, je considère vraiment important qu'on les accompagne là-dedans, puis qu'on en jase, puis qu'on discute, puis qu'on aide le jeune à se forger une opinion nuancée le plus possible dans la mesure où il est capable en fonction de sa maturité. Là. Mais, tu sais, donc, en discuter avec eux, voir les choses avec eux, regarder les choses avec eux, mais toujours en dosant aussi. Là, si on se rend compte qu'on a un jeune qui est toujours en train de regarder des images violentes. Là, on parle des attentats, là, mais c'est pour les images violentes en général, ben éventuellement, il va falloir aussi contrôler. Là.
Oui, il faut leur faire confiance un peu aux jeunes. Évidemment, les accompagner, tout ça, mais ils sont aussi capables de faire la part des choses.
Nancy Doyon, Mais en même temps, c'est à nous de voir, tu sais, les enfants sont pas tous pareils. Hein? Fait qu'il faut voir, c'est qui le modèle d'enfant que j'ai chez nous? Est-ce que j'ai un jeune qui est très influençable? Est-ce que j'ai un jeune qui vit présentement des difficultés émotives puis qui pourrait être tenté, justement, là, de s'alimenter dans le négatif?
Madame Doyon, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était très éclairant tout ça, donc je vous remercie énormément.
Ça m'a fait plaisir. À une prochaine.
Donc, vous pouvez lire le texte de Madame Doyon sur le site sosnancy.com. De retour à C'est bon pour la santé, édition du 15 février 2017. Martin Forgue avec vous en remplacement de Marianne Paquette. On a une deuxième partie d'émission quand même assez chargée. On reçoit à 12h42 le docteur Yves Joannette, professeur et chercheur à l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine, qui nous parlera de communication et de vieillissement. On reçoit à 12h31 Gayle Ouellette, généticienne, présidente, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Elle vient nous parler d'un premier salon qui se tiendra sur la question. Vous aurez tous les détails au cours de l'entrevue. En toute fin d'émission, on parlera d'un livre qui est, ma foi, fort inspirant, qui aborde des thématiques de famille, qui est un véritable voyage émotionnel, Racine de Marianne Ferrer. Sinon, également, vous pouvez nous suivre sur Internet. Nous sommes sur canalem.vuesetvoix.com. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, tout ça sous la marque Canal M, la radio de Vues et Voix. Gail Ouellette, généticienne, présidente directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous venez nous parler de la première édition d'un tout nouveau salon qui aborde justement la question des maladies orphelines. On parle de recherche, accessibilité des soins, réseau, aide aux familles également. Bref, à quel besoin répond le salon plus spécifiquement?
Bien, il y a deux objectifs, en fait. Premièrement, la sensibilisation du grand public. C'est pour ça qu'on fait ça dans un lieu public. Là, c'est une première où les associations de maladies rares, entre autres, et quelques groupes de recherche vont pouvoir avoir là vitrine là sur un lieu public, parce qu'on veut sensibiliser le grand public aux maladies rares. Puis le deuxième objectif, ben c'est les personnes atteintes de maladies rares, puis les proches aidants, ben ils pourront venir visiter ces kiosques et en savoir plus sur les ressources pour des maladies particulières ou toutes sortes de maladies via les RQMO et sur la recherche.
Et quand on parle de maladies rares, Mme Ouellette, à quoi on fait référence exactement?
Bien, les maladies rares, la définition la plus courante au niveau international, c'est une maladie qui touche moins de une personne sur 2000 dans la population. Il y en a près de 7000 de ces maladies.
Et on parle de maladies rares, maladies orphelines, est-ce que c'est synonyme?
Ben presque, parce que les maladies étant rares, là, il y a souvent beaucoup, en tout cas, il y a presque pas de recherche, mais on dit qu'il y a moins de recherche sur ces maladies-là que les maladies communes. Moins, il y a évidemment moins de médicaments. Il y a seulement 400 médicaments à peu près pour 7000 maladies rares. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont orphelines. Mais en fait, même de façon générale, là, elles sont orphelines à bien des niveaux dans notre système de santé. C'est difficile pour les systèmes de santé de s'adapter à la rareté, on dirait.
Et la recherche sera une des thématiques abordées au cours de ce salon. L'état de la recherche actuellement, ça ressemble à quoi, Mme Ouellette?
Bien, ça, je peux dire qu'on est plus positif. Ailleurs dans le monde, là, il y a eu un intérêt depuis déjà plusieurs années, là, même plus qu'une décennie, là, pour la recherche sur les maladies rares. Ils se sont organisés beaucoup en Europe, aux États-Unis. Et donc, il y en a de plus en plus, puis aussi des efforts là, internationaux, parce qu'avec les maladies rares, étant donné qu'il n'y a plus de patients, c'est mieux de coopérer là, entre pays. Mais on peut même dire que maintenant, au Canada, au Québec, il y a aussi là, un plus grand intérêt. Fait que ça, c'est positif. Là.
Donc, on parle de recherche, mais quels sont les autres grands enjeux qui ont attrait aux maladies orphelines en ce moment?
Bien, je peux vous donner, là, en fait, à part la recherche, qui est un thème abordé dans la stratégie québécoise que nous proposons, là, notre gouvernement, il y a 5 autres thèmes. Et c'est la formation des médecins et professionnels de la santé sur les problématiques spécifiques aux maladies rares, et puis l'accès à de l'information, même pour les médecins et les professionnels de la santé, mais aussi pour les familles affectées. Ensuite, on trouve qu'il y a, en tout cas, il y a vraiment pas de formation spécifique là-dessus au Québec. Ensuite, le diagnostic, s'il y a encore beaucoup de délais de diagnostic pour les maladies rares, il y en a que c'est bien normal que ça prenne du temps, là, mais il y en a d'autres où on trouve que il y a peut-être des manques là pour que ça prenne des dizaines d'années pour diagnostiquer une maladie connue. Il y a de la prévention qui peut être faite. Ensuite, il y a la prise en charge médicale. Ben là, c'est pas comme des maladies communes où on a des protocoles puis des guides de pratique très uniformisés, courants, standards. Dans le cas de la prise en charge, ça peut être différent d'un endroit à l'autre, d'un médecin à l'autre, d'un établissement à l'autre. Les traitements, ben comme je disais, il y a que même pas 400 médicaments pour 7000 maladies rares. Alors, la plupart du temps, c'est des traitements symptomatiques, mais c'est sûr qu'on voudrait qu'il y ait plus de traitements. Mais en plus, c'est souvent des traitements coûteux et donc les gens n'ont pas accès. Ce qui est curieux quand même, parce que dans d'autres pays, d'autres provinces, des fois, il y en a qui ont accès à un médicament, mais pas nécessairement ici. Le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est la prise en charge psychosociale. Alors, il y a beaucoup d'isolement. On sent l'isolement chez les individus, les familles atteintes de maladies rares, parce que quand la maladie n'est pas connue, quand on ne traite pas ça de la même façon que quelqu'un qui a le cancer ou le diabète, ou le, c'est, ils peuvent être isolés même de leur famille, de leur entourage. C'est souvent des maladies complexes, ce qui fait qu'ils doivent, quand c'est des parents, là, s'occuper beaucoup, beaucoup de leur enfant. Quand c'est un adulte, souvent, ils doivent même laisser le travail. La vie sociale peut être difficile, donc il faut qu'il y ait plus de services psychosociaux.
Et je reviens, Mme Ouellette, sur ce que vous avez dit à propos des délais de diagnostic. J'imagine que ça peut avoir un impact négatif sur la qualité et l'efficacité des traitements.
Et tout à fait. Ce qu'on dit, nous, c'est un diagnostic tôt, ça veut dire un traitement, puis prise en charge plus tôt. Hein? Puis ça a des conséquences, parce que si pendant ce temps-là, une maladie évolue, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de ces maladies-là qui sont progressives, évolutives, donc si on n'a pas un traitement assez rapidement. L'exemple aussi, là, c'est justement la prévention, c'est que il y a du dépistage de nouveau-nés qui est fait au Québec, mais on est en retard maintenant. On n'a pas la technologie que les autres provinces ont. Puis ça, c'est des maladies où on peut dépister chez les nouveau-nés dès le premier mois de naissance et traiter rapidement lorsque le diagnostic est confirmé. Alors que c'est sûr que si ça, c'est pas fait rapidement, ben là, y a de la morbidité, puis dans certains cas, de la mortalité.
Bon, évidemment, depuis tantôt, on dresse un portrait un peu sombre là, de l'enjeu là, des maladies orphelines, mais est-ce qu'il y a quand même des progrès, des bonnes nouvelles, des découvertes à surveiller?
Ben, au niveau de la recherche, des découvertes, là, comme je dis, de plus en plus les compagnies pharmaceutiques s'y intéressent là pour développer des traitements. Puis il y a de plus en plus d'intérêt pour la recherche, comme je dis. Mais nous, ce qu'on dit là, c'est il faut de la recherche, puis c'est de l'espoir là pour une thérapie future. Mais il faut aussi des services et même de la recherche qui travaille sur dans des domaines peut-être paramédicales, sciences humaines, qui ont un impact aujourd'hui. Autrement dit, il y a le ici et maintenant aussi, c'est-à-dire la qualité de vie aujourd'hui de ces gens-là. Puis c'est là que nous, on trouve qu'il n'y a pas assez de services, puis il n'y a pas d'intégration. On n'a pas vraiment intégré la rareté dans notre système de santé. Les autres pays industrialisés, tous les autres sauf nous, Canada, on fait ce qu'on appelle des plans nationaux maladies rares. Fait que c'est pour ça, nous, on pense que c'est pas à la pièce, mais il faut faire une stratégie pour regarder l'ensemble de ces thèmes-là, puis voir ce qu'on peut améliorer. Puis par là, on ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas bien traités puis pris en charge. Il y en a, oui, mais il y en a beaucoup encore, là, selon nos sondages, selon les commentaires qui arrivent à notre centre d'information. Bien, il y en a qui ont encore beaucoup de difficultés.
Et donc, le 21 février, vous organisez un premier salon des maladies orphelines. Pouvez-vous nous donner un aperçu un peu de la programmation? Qu'est-ce qu'on va trouver à cette journée-là?
Oui, bien, on est bien chanceux là de recevoir entre autres Pierre Lavoie, hein, qui est une personne public assez connu là dans les maladies orphelines. Il est directement concerné. Mm-hmm. Puis aussi, donc il va faire une conférence. Martin Deschamps qui va aussi nous parler un peu et puis faire une prestation musicale. Alors, on est très chanceux de le recevoir. Il va avoir des témoignages de Loïc Bidal, qui a 13 ans, puis qu'à cause de sa maladie orpheline, commence à tourner, ben il vit à l'hôpital depuis 3 ans et demi. Il va être là avec sa mère. Puis une adulte qui, elle, va parler justement des aspects psychosociaux, Rosemary Tickley, là, de sa maladie qui s'est développée pendant qu'elle était adulte, comme ça, du jour au lendemain. Et on a évidemment, on a une 20 kiosques d'associations de maladies rares. Ben ça inclut nous. Donc, les gens vont pouvoir connaître des maladies rares, échanger avec des personnes qui sont atteintes et puis les familles peuvent venir chercher de l'information. Nous, on va parler de notre centre d'information et de ressources. Et puis, enfin, on a 2 kiosques de groupes de recherche, chaires de recherche de l'UQAM, c'est une nouvelle chaire sur les maladies rares. et l'Institut de génétique des instituts de recherche Santé Canada qui, eux, en fait, ont lancé en 2012 des programmes de subvention pour les maladies rares puis qui ont pris plusieurs initiatives dans ce domaine-là.
Et ça se déroule où et de quelle heure à quelle heure?
Donc, c'est à la grande place du complexe des jardins, en bas où il y a la fontaine, et puis c'est de 10h à 18h, et puis on invite tout le monde à venir échanger, puis soit avec des chercheurs, des étudiants en recherche et évidemment les personnes atteintes de maladies rares.
Et l'inscription se fait comment?
Il n'y a pas d'inscription. Ah. Comme c'est public, vous venez, c'est ouvert, pas d'inscription, gratuit de 10h à 18h. Facile d'accès aussi, même pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des stationnements exprès au complexe. Vous pouvez aller voir sur leur site, d'ailleurs, ils expliquent pour l'accessibilité.
Et le site, on le trouve facilement sur Internet?
Le site du complexe des jardins, pour ça. Oui. Puis nous, on a toute la liste des associations qui vont être là aussi, parce qu'il y en a, comme je disais, 19 à part nous. C'est sur notre site Internet, www.rqmo.org.
Merveilleux, Mme Ouellette. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous remercie beaucoup de l'attention. Au revoir.
Au revoir. Il y a toutes sortes de clichés qui sont reliés à la communication, au vieillissement également. Des fois, il y a cette idée selon laquelle plus on vieillit, moins on est capable de communiquer. Tous ces clichés, ces idées préconçues à propos de la dégénérescence du cerveau qui vient avec le déroulement du temps. Heureusement, il y a le docteur Yves Joannette, professeur-chercheur à l'école, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui va qui va complètement déboulonner tous ces mythes qui, vous allez voir, parfois reposent sur de vieilles recherches. Docteur Joannette, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on vous identifie comme professeur-chercheur à l'Université de Montréal, mais vous portez plusieurs chapeaux, dont celui de directeur scientifique à l'Institut du vieillissement des instituts de recherche en santé du Canada.
Tout à fait.
D'abord, sur quoi se concentrent vos recherches?
Alors, mes propres recherches se concentrent sur une meilleure compréhension de comment notre fabuleux cerveau fait en sorte pour vieillir le mieux possible, de vieillir au sens de maintenir ses activités cognitives, et en particulier un aspect qui se maintient bien lors du vieillissement, et c'est la capacité à communiquer.
Et je vous cite, vous avez déjà décrit l'étude du vieillissement comme une science assez jeune, et dans une entrevue qui date déjà de 2012, vous disiez « Dans l'histoire humaine, le vieillissement est un phénomène récent. Il n'y a pas très longtemps qu'on vieillit suffisamment pour susciter des études sur ce sujet. Mais j'imagine ça fait déjà presque 5 ans, cet article-là, l'impact de ces recherches-là doit déjà se faire sentir. »
Oui, mais en même temps, 5 ans, c'est pas beaucoup pour la science. Ça prend du recul, ça prend de l'intérêt. C'est vrai qu'il y a eu énormément de travaux et il y a eu beaucoup d'impact déjà de ces travaux sur comment, sur notre connaissance de comment on vieillit, comment on peut mieux vieillir. Mais il reste que l'intérêt pour le vieillissement, ça reste récent. C'est pas quelque chose qui date, de 100 ans ou de plus d'un siècle. Et le domaine en souffre un peu, dans le sens où c'est une science qui est paradoxalement assez jeune, celle du vieillissement. Et on a besoin de gens qui s'y intéressent, on a besoin de jeunes qui s'y intéressent, et c'est un domaine en devenir.
Et comment va la relève dans ce sens-là, justement?
Écoutez, elle va très bien, la relève. Il y a énormément d'étudiants au cycle supérieur qui s'intéressent à cette question-là. C'est de plus en plus d'intérêt, mais en même temps, il faut que les investissements de public et privé dans ce domaine-là suivent. C'est comme ça que on peut susciter la recherche. Et force est de constater que, par exemple, les maladies du vieillissement, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts qui sont faits, ça reste une proportion très faible des investissements qu'on fait, par exemple, pour comprendre le cancer ou les maladies cardiovasculaires, qui sont pas beaucoup plus fréquentes, même dans certains cas moins fréquentes. Alors, il y a un investissement là, à faire de notre société.
Donc, ce que vous semblez dire, c'est que les ressources allouées à ce type de recherche-là ne suivent pas les tendances démographiques actuelles.
Les ressources actuelles vouées à ce type de questions-là ne suivent pas les tendances démographiques pour des tas de raisons. Il n'y a personne qui bloque ça quelque part, mais c'est que ça prenait une capacité de recherche, ça prenait une communauté de chercheurs, ça prend une capacité à bien apprécier la recherche dans ce domaine-là. Vous savez, quand on fait de la recherche et qu'on soumet des projets pour financement, ben on se fait évaluer par des pairs. Et les pairs, ben ils doivent être en mesure de bien apprécier c'est quoi une recherche sur le vieillissement, parce que ça implique des dimensions longitudinales, c'est des nouvelles méthodologies. Alors, c'est naturel que ça prenne un peu de temps, mais c'est pas à la hauteur encore, en effet.
Et abordons un peu plus précisément le sujet de la communication et du vieillissement.
Ouais.
Il existe un cliché, comme quoi les facultés de communication peuvent s'atténuer en vieillissant. Vous semblez vous-même pas très d'accord avec cette assertion-là. Qu'est-ce que vous en penser?
Bien, écoutez, notre cerveau est très complexe. C'est celui qui nous permet de penser, de se remémorer, de planifier. Et c'est vrai que dans l'ensemble, avec le vieillissement, il se modifie et certaines des capacités que l'on voit chez des jeunes adultes, on les voit un peu moins chez des adultes âgés. Ceci étant, on a toujours comparé les adultes âgés à des adultes jeunes. Si on faisait le contraire, et si on regardait qu'est-ce qui caractérise des adultes âgés et leur sagesse et leur connaissance, et on comparerait des jeunes, on trouverait des aspects plus souvent pour lesquels ils sont meilleurs. Mais pour revenir à votre question, la communication, la capacité à communiquer avec autrui, c'est probablement un des aspects du fonctionnement du cerveau qui est le mieux préservé avec l'âge.
Et est-ce que ce cliché-là, justement, ne repose pas sur de la vieille recherche qui a été démentie plus récemment?
Ben, c'est une vieille recherche qui, vous savez, en recherche sur le vieillissement, on a souvent abordé la chose en essayant de trouver la petite bête et en ayant une attitude d'agisme, c'est-à-dire d'aspect négatif du vieillissement. D'ailleurs, on n'est pas libéré de cette attitude d'agisme dans la société, mais en science, il y avait un peu cet agisme par rapport au vieillissement, et on pensait que tout devenait moins bon, que ça allait un peu du mauvais côté là avec le vieillissement, alors qu'il y a des aspects du fonctionnement, et en particulier la communication, qui en fait s'améliore même avec le vieillissement.
Et elle s'améliore, vous dites que les capacités peuvent s'améliorer, ce serait quoi le mécanisme par lequel on mesurerait cet effet-là?
Ben écoutez, il y a des choses bien simples là, et vous allez bien comprendre. Par exemple, pour que l'on communique de façon précise, pour que l'on puisse échanger, il faut connaître nos mots, il faut connaître les concepts. Ben c'est évident que plus on avance en âge, plus on en connaît. C'est un des bons côtés d'avancer en âge, c'est qu'on est de plus en plus performant au Scrabble. C'est une blague, mais je veux dire, on en connaît plus de mots. Alors, ça démontre, je vous dis pas que c'est que ça, mais ça démontre que c'est une dimension importante. Et en fait, c'est une dimension importante qui est nécessaire parce que pour bien vivre l'avancée en âge, on peut pas être seul. S'il y a une chose qu'on sait, on peut manger toutes les bonnes choses du monde, on peut faire de l'exercice et tout, mais on peut pas être seul. On doit connecter avec les autres. On doit bénéficier d'un réseau d'amis, d'un réseau de connaissances. Et bénéficier d'un réseau, ça veut dire qu'il faut avoir un outil pour communiquer dans ce réseau. Et puis, l'être humain, son outil, c'est le langage, c'est la communication. Donc, c'est naturel que ce langage, qui nécessite pas de courir très vite, qui nécessite pas de lever des poids, mais qui soit maintenu, et heureusement, ça nous permet de bien vieillir comme ça.
Donc, vous avez énuméré plusieurs moyens qu'on a de conserver ou même améliorer cette faculté de communication. On le sait, le cerveau est un... On dit souvent que le cerveau est un muscle. Vous avez mentionné l'exemple du Scrabble. Mais justement, vous prononcez une conférence sur le sujet la semaine prochaine.
Oui. Alors, je disais le Scrabble comme indice, mais évidemment, ne nous mettons pas tous au Scrabble, là, parce que c'est pas ça. C'est pas la pilule magique, là, loin de là. Par contre, il y a des choses qu'on commence à comprendre et qui viennent pas de mon équipe, des recherches de mon équipe elle-même, mais celles, par exemple, du docteur Ansaldo de l'Université de Montréal et de bien d'autres équipes de par le monde. Et on sait que, par exemple, si on maintient un cerveau actif, ben, on va combattre les effets du vieillissement. On peut même combattre certaines des maladies comme l'Alzheimer qui survient lors du vieillissement. Non pas combattre la maladie, mais ses manifestations. Puis une des choses qui est, alors là, sur laquelle on s'entend très bien, c'est le fait de manipuler et d'utiliser au quotidien plusieurs langues. Alors, non seulement de les apprendre, mais de les utiliser au quotidien, il semble que ça a un effet extraordinaire.
Et c'est ce que vous allez aborder dans votre conférence prochaine?
Entre autres, je vais, lors de cette conférence, je vais parler du vieillissement de la population, je vais parler des facteurs qui favorisent un vieillissement en santé, parce que vieillir en absolu, c'est pas ça qu'on veut, on veut vieillir en état fonctionnel, en santé. Et je vais parler en particulier de la communication, de tout ce que l'on connaît, de comment le cerveau se réorganise lors du vieillissement, parce que le cerveau lui-même se réorganise pour être plus efficace. Et je vais parler de différents facteurs, dont, par exemple, des avantages de manipuler plusieurs langues.
Donc, tout ça, c'est très éclairant. Docteur Joannette, je vous remercie énormément de votre participation à l'émission.
Merci beaucoup. Merci pour l'entretien et bonne trajectoire de vie à vous aussi.
Merci. C'était donc le docteur Yves Joannette, professeur-chercheur à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Sa conférence « Cerveau, communication et vieillissement, une combinaison gagnante » présentée le 22 février à 13h30. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site www.bellesoireesaupluriel.umontréal.ca. C'est une conférence de 2 heures, tarif régulier 25 $, 60 ans et plus 21 $. Et pour les étudiants, si vous écoutez, 15 $. Et pour clore cette édition de C'est bon pour la santé, je vous parle d'un livre, ma foi, fort inspirant, Racine, qui est un livre illustré, donc par Marianne Ferrer, une jeune auteure originaire du Venezuela. C'est une jeune femme de 26 ans. Elle commence tout juste, c'est son premier livre, en fait, pour la petite histoire. C'est un projet d'étude qu'elle a par la suite soumis à la maison d'édition Monsieur Ed. C'est un Leporello, donc un livre accordéon, un format qu'on voit pas toujours, qu'on ne voit pas très souvent dans les librairies, mais c'est donc un livre avec des images qui sont, ma foi, magnifiques et, je disais, inspirantes, donc à la fois par la qualité des images, mais également par les thèmes qui sont abordés, puisque Marianne y raconte sa jeunesse passée au Venezuela. Donc, elle est arrivée ici au Canada en 1998. Toute jeune fille, elle a vécu dans le pays de ses ancêtres et c'est un peu ce qu'elle nous raconte. Donc, je vous résume un peu le synopsis, une histoire d'amour qui traverse les montagnes, un grand-père passionné et l'héritage d'une mère. Donc, elle nous raconte un peu l'histoire de sa famille au fil d'images qui se succèdent et qui, bon, nous raconte tout ça. Il y a notamment Juliette Lopez-Benitez, libraire à la librairie Monet, qui a fait une critique, ma foi, fort dithyrambique du livre. Je vous la cite. « On ne peut pas raconter ce livre. Il faut déplier ses pages, le lire et le ressentir, se laisser bercer par le charme sombre et profond de l'illustration par la douce tristesse du texte. » On dit tristesse, je suis pas bon, c'est une tristesse quand même. C'est, C'est un drôle de mot pour le décrire, je vous dirais, parce que c'est plus une mélancolie qu'on ressent au fil des pages du livre, mais c'est surtout un excellent outil pour accompagner vos enfants, pour raconter un peu, pour aborder un peu les thèmes justement de la filiation, l'importance de s'enraciner dans son passé tout en soulignant, tout en célébrant son présent. C'est un livre. Je vous le rappelle encore une fois, il n'y a pas beaucoup de textes, tout se raconte en images, et malgré le fait qu'il ne contienne que 16 pages, on est complètement absorbé dans ce livre qui, je vous rappelle, est un livre accordéon disponible en librairie, également à la bibliothèque et aussi en ligne. Je vous rappelle le titre, Racine de Marianne Ferrer. C'est publié chez Monsieur Ed, c'est sorti en octobre dernier, et donc je vous invite à le lire. C'est tout pour cette édition du 15 février 2017 de C'est bon pour la santé. Martin Forgue avec vous. J'ai remplacé Marianne Paquette qui, elle, est partie se faire dorer la couenne sous le soleil de la Floride. J'en profite pour la remercier d'abord pour cet immense privilège de vous avoir accompagné ce midi. Je remercie également Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna, qui est responsable de notre site web ainsi que de nos réseaux sociaux. J'en profite pour vous rappeler l'adresse canalm.vusevoix.com. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Vous cherchez Canal M, la radio de Vusevoix. Encore une fois, c'était Martin Forgue au micro qui vous souhaite à tous et à toutes, nos auditeurs de C'est bon pour la santé, une excellente fin de journée. Et je vous le rappelle, Marianne qui sera de retour dès la semaine prochaine pour une autre édition de C'est bon pour la santé. Bonne semaine.